Bonjour à toutes et à tous, très chers frères et sœurs, et encore une fois, bienvenue à ce culte. Et bonjour aussi à ceux qui nous suivent par Zoom. C'est vraiment une joie de pouvoir être là devant vous. C'est vrai, comme l'avait dit notre frère Sam, on était un peu dans l'incertitude, moi le premier. Je m'étais déjà projeté à dire, est-ce que je vais devoir prêcher devant un écran, avec tout le monde derrière me regarder, mais heureusement le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir venir dans sa maison et de pouvoir partager ce moment ensemble, physiquement et spirituellement, pour écouter la parole que le Seigneur a à nous dire. Je vous invite à prier pour remettre ce moment dans les mains de notre Seigneur. Notre Père, notre Dieu, quelle joie et quelle grâce nous avons de nous retrouver ici dans ton temple, dans ta maison, l'église de Saint-Maur, et qui fait encore partie de plus de l'église universelle. Seigneur, cet après-midi, nous voulons venir devant toi et reconnaître que tu es notre Dieu, reconnaître que tu es notre Maître, reconnaître que tu es notre Sauveur. Merci encore pour ta parole, Seigneur, qui est vivante. Merci pour ta parole qui est lumière. Merci pour ta parole qui nous apporte également une vie nouvelle en Jésus-Christ. Et en cet après-midi, Seigneur, nous voulons incliner nos cœurs, incliner nos corps, incliner nos têtes et reconnaître que tu es tout-puissant et que la parole que tu as laissée, Seigneur, parle encore dans nos cœurs et encore un message puissant à nous délivrer aujourd'hui. Seigneur, que ton esprit, encore une fois, nous accompagne en cet après-midi pour nous parler à chacun, ici présent, derrière leur écran. Parce que je crois, Seigneur, que tu veux, encore une fois, par ta parole, nous rappeler à toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je te prie. Amen. Ok. Donc je pense que je vais fonctionner avec Denis. Donc j'espère que tu auras mes... Merci. J'espère que tu auras mes signaux. Donc aujourd'hui, nous allons continuer à notre série sur les chants du serviteur de l'Éternel. Donc ça fait depuis deux dimanches déjà que nous avons abordé ce thème. Et aujourd'hui, nous allons aborder notre troisième volet, notre troisième chant du serviteur de l'Éternel. Pour rappel, le premier chant était dans Ésaïe chapitre 42, versets 1 à 9, où Clément nous avait rappelé que Jésus-Christ était le serviteur choisi par l'Éternel pour apporter la justice, pour apporter la lumière aux nations. La semaine dernière, dans Ésaïe chapitre 49, versets 1 à 13, Philippe nous a conduit également et nous a introduit à cette mission de la part du serviteur. Cette mission, il est venu sur terre pour réaliser, pour accomplir la mission que le Père, que le maître lui a donnée. Cette mission-là, de restaurer la relation entre le Père et nous, les enfants. Et aujourd'hui, dans ce troisième chant du serviteur, nous allons aborder une autre notion encore, une autre caractéristique du serviteur de l'Éternel. Pour rappel, ces chants du serviteur de l'Éternel ont été écrits par Ésaïe, donc le prophète Ésaïe, 700 ans avant même la venue de Jésus-Christ, qui est le serviteur de l'Éternel annoncé. 700 ans avant déjà, Ésaïe prophétisait sur la venue du serviteur de l'Éternel. Et nous allons voir maintenant dans ce troisième chant ce que Ésaïe a à nous dire sur ce serviteur. Avant de rentrer plus en détail dans ce troisième chant, je vais vous poser une question, pour savoir si vous êtes cultivés, nous, citoyens français. Si je vous parle du 18 juin 1940, est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé le 18 juin 1940 ? Comment ? C'est De Gaulle qui fait un discours, exactement. Tu peux passer, s'il te plaît, Denis ? Exactement. Donc, l'appel du général De Gaulle, donc le 18 juin 1940, depuis Londres, depuis l'Angleterre, Charles De Gaulle est exilé. Charles De Gaulle, qui représente l'espoir un petit peu de la France et des forces françaises à l'époque où la France a été envahie par les Allemands, Charles De Gaulle fait un appel puissant, un appel qui est resté dans l'histoire de la France. Un appel à la résistance, un appel à la rébellion, un appel à tous les exilés français, qu'ils soient ingénieurs, qu'ils soient combattants, qu'ils soient ouvriers. Toutes les forces de la France ont été appelées pour venir et résister à l'occupant. Cet appel a été fondateur pour la résistance française. Et Charles de Gaulle également, cette personne est une figure emblématique. Je pense que tout le monde la connaît. Il y a des rues, il y a des lycées, il y a des aéroports. Il y a même un porte-avions. Ouais. Comment ? Station de RER, exactement, sur la ligne A. Exactement, ouais, on prend plus le RER, c'est pour ça maintenant, on l'oublie. Mais en effet, il y a cette personne-là et cet appel à changer l'histoire de la France, la République française. Et aujourd'hui, à travers ce troisième champ du serviteur, nous allons également voir une personne ô combien plus importante, ô combien plus grande, ô combien plus admirable, une personne qui a également un appel à nous faire, un appel à faire à chacun d'entre nous. Et c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui, à travers ce troisième champ du serviteur. Tu peux passer, s'il te plaît ? Donc, dans ce troisième champ, nous allons voir plusieurs choses, plusieurs temps que le prophète Ésaïe nous décrit. Dans un premier temps, nous allons voir comment Ésaïe nous décrit ce serviteur exemplaire, même dans la souffrance, du verset 4 au verset 6. Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons voir que ce serviteur est rempli d'assurance par rapport au secours que l'Éternel a lui apporté. Et dans un troisième temps, nous allons comprendre quelle est la nature de cet appel, un appel à la foi pour le peuple d'Israël. Donc, dans la première partie que nous allons aborder maintenant, un serviteur exemplaire même dans la souffrance. Pour un peu de contexte, au moment où se passe ce que prophétise Ésaïe par rapport au serviteur de l'Éternel. Donc le message central, vous l'aurez compris et vous l'aurez lu, soit répondons favorablement à l'appel du serviteur innocent qui a souffert injustement pour nos péchés. Répondons favorablement à l'appel du serviteur innocent qui a souffert injustement pour nos péchés. Donc c'est ça le message central de ce texte. Et on va y revenir. Comment est-ce que le serviteur nous appelle à répondre ? Donc je reviens au contexte du troisième chant du serviteur. À partir d'Ésaïe au chapitre 40, le peuple de Juda, donc tu peux passer s'il te plaît, Denis ? Donc vous vous rappelez peut-être de cette carte, c'est la carte que notre cher pasteur Philippe a utilisée la semaine dernière. Et ici on voit... Et donc nous pouvons voir qu'à cette époque, donc le royaume d'Israël est scindé en deux. Le peuple d'Israël, donc tel qu'on le connaît, est scindé en deux. Le royaume du nord, Israël, et le royaume du sud, le royaume de Juda. À cette époque, au moment où est écrit le troisième chant, le royaume d'Israël n'existe plus. Le royaume du nord n'existe plus. Il a été envahi, il a été mis sous domination des forces de l'époque, aussi bien assyriennes que syriennes. Il ne reste que le royaume de Juda. Et le royaume de Juda, c'est le royaume auquel s'adresse le prophète Ésaïe. Ce royaume de Juda est totalement esselé, ce royaume de Juda est totalement désespéré aussi, parce qu'il ne voit pas de fin, il ne voit pas d'espoir à sa situation. Il a perdu sa superbe politiquement, économiquement, il a perdu ses alliés, et le peuple également est perdu. Face au péché, face à la situation du royaume de Juda, il n'y a pas d'espoir. Et c'est dans ce contexte-là que le chant du serviteur et que Ésaïe apporte le chant du serviteur au royaume de Juda. Donc nous allons maintenant voir ce que le serviteur de l'Éternel a à dire au royaume de Juda. Donc au verset 4, nous voyons que le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples. On l'a chanté tout à l'heure, et notamment Samuel l'a chanté. Alors je ne sais pas si tu l'as rajouté, c'est quelque chose que tu as composé toi-même, notamment dans le tel que je suis. Et tu ne m'abandonnes pas. D'accord. Je ne connaissais pas, mais c'était très beau et très puissant aussi. Et c'est aussi dans ce contexte-là que le serviteur de l'Éternel parle. Je vous ai dit, le peuple du royaume de Juda se sent abandonné, se sent perdu. Il y a la perspective de l'exil à Babylone également qui intervient. Ils savent qu'ils vont être exilés. Et du coup, le peuple a peur, le peuple craint. Et le peuple se sent abandonné par Dieu. Et de la même manière que nous l'avons chanté, tu ne m'abandonnes pas, tu ne m'abandonnes pas, tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. C'est aussi les paroles que le Seigneur, l'Éternel, veut rappeler à son peuple. Peuple, rappelle-toi, je ne t'abandonne pas, je ne t'abandonne pas. Sache-le, je ne t'abandonne pas. Et c'est dans cet état d'esprit que le chant du serviteur arrive et le serviteur vient dans cette optique-là aussi. On voit que le verset 4, le chant du serviteur de l'Éternel commence directement par « Le Seigneur m'a donné ». Tout au long de ces versets, nous allons voir quatre occurrences. « Le Seigneur m'a donné », »,« Le Seigneur m'a ouvert », »,« Le Seigneur m'a secouru ». À chaque fois, le serviteur de l'Éternel reconnaît que c'est le Seigneur, l'Éternel, qui lui donne, qui lui ouvre l'oreille, qui le secourt, qui montre une dépendance totale, une soumission totale du serviteur de l'Éternel envers l'Éternel même. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît ? Donc ici, nous voyons que le Seigneur l'Éternel a donné le langage des disciples. Le Seigneur l'Éternel a donné à son serviteur le langage des disciples. À travers ça, Ésaïe nous montre à quel point en fait le serviteur de l'Éternel, c'est un porte-parole, c'est un messager, c'est un ambassadeur de la parole de Dieu. Il n'est pas là pour instaurer un règne par la puissance ou instaurer une nouvelle économie ou instaurer un nouvel essor pour le royaume de Juda, mais il est là pour rapporter fidèlement la parole de Dieu, rapporter fidèlement ce que Dieu a à dire à son peuple. Et on peut le voir comment cela se réalise déjà dans le Nouveau Testament. Donc la prophétie de l'Ancien Testament d'Ésaïe pour le service de l'Éternel, pour le serviteur, se réalise également dans le Nouveau Testament à travers Jean chapitre 8, où ici Jésus parle et Jésus nous dit « J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Et un peu plus loin, il dit mais ce que je parle, et je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Encore une fois, Jésus, durant son ministère terrestre, lui, le serviteur de l'Éternel, montre encore une fois à quel point il accorde de l'importance à parler, à dire, à enseigner, à transmettre la parole de l'Éternel, et rien que la parole de l'Éternel. Au verset 23 de Matthieu chapitre 4, donc au tout début, encore une fois, du ministère de Jésus-Christ sur terre, en tant que Messie, Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Encore une fois, le ministère de Jésus-Christ est basé sur la parole de Dieu. Il est là pour apporter la parole de Dieu aux hommes. Tu peux passer, s'il te plaît ? Donc le serviteur de l'Éternel apporte, il est le porte-parole fidèle de notre Seigneur pour un but précis, pour soutenir par la parole celui qui est abattu. Comme les prophètes auparavant et comme les prophètes avant lui, il apporte un message de repentance, il apporte un message de rappel au peuple pour qu'il revienne à Dieu, pour qu'il reconnaisse son péché, mais il apporte également une parole pour soutenir celui qui est abattu. On le voit parfaitement encore une fois dans les propos de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 11, du verset 28 au verset 29, vous le connaissez tous, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Encore une fois, dans le contexte qu'on a décrit tout à l'heure du peuple de Juda, pardon, qui est désespéré, qui attend une autre fin et une lueur d'espoir, ici le serviteur de l'Éternel leur dit « Je veux vous apporter du repos à vos âmes. Si vous êtes abattus, si vous êtes fatigués, si vous êtes chargés, le serviteur de l'Éternel apporte du réconfort, apporte de la paix à vos âmes. C'est la raison pour laquelle il est venu sur terre, c'est la raison pour laquelle il exerce son ministère et c'est ce qu'il veut apporter aussi au royaume de Juda ici. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît ? Donc nous avons vu que le serviteur de l'Éternel est un porte-parole fidèle pour apporter le soutien, pour apporter du réconfort à ceux qui sont abattus. Et dans un deuxième temps, à partir du verset 4b, on voit également la proximité que le serviteur de l'Éternel a envers l'Éternel lui-même. Donc verset 4b, il dit « Il réveille, oui, après matin, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. » Encore une fois, c'est une version imagé du serviteur de l'Éternel qui nous rappelle, encore une fois, à quel point il est dépendant, à quel point il a à cœur de vivre une intimité profonde avec le Seigneur, matin après matin, en toutes circonstances et en tout temps. Le serviteur de l'Éternel veut dépendre de l'Éternel. On le voit dans Luc chapitre 2, versets 41 à 52. Donc pour le contexte, Jésus-Christ n'a que 12 ans à cette époque-là. Et les parents de Jésus-Christ et Jésus-Christ vont à Jérusalem. Donc verset 46, donc vous en souvenez, Marie et Joseph oublient entre guillemets Jésus à Jérusalem. Et au bout de 3 jours, ils le trouvent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Et verset 52, « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. » Même dans sa jeunesse, Jésus avait 12 ans à cette époque-là, Jésus avait à cœur également d'écouter la parole de Dieu dans la synagogue, mais surtout il avait à cœur déjà et il avait conscience du ministère qu'il avait à apporter sur terre. Vous vous rendez compte des paroles qu'il dit à son père et à sa mère ? Enfin, je pense que personne n'oserait dire ça à son père ou à sa mère, enfin, en tout cas moi pas à ma mère. Mais à 12 ans, en écoutant la parole de Dieu, et par rapport à ce que Marie lui dit, il sait déjà et il est persuadé et il est convaincu de l'importance de sa mission sur terre. Pourquoi m'ai-je cherché vous ? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? Quelle confiance il a, quelle intimité il a avec le père et quelle conviction également il a pour son ministère sur terre. Nous avons vu que le serviteur a une parole, la parole de Dieu, qu'il dépend en toutes circonstances et en tout temps du Père. Et nous allons voir maintenant dans une troisième partie quel est son ministère, comment il réagit, comment il réagit en effet à la parole de l'Éternel. Versets 5 à 6, « Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas rebellé, je n'ai pas reculé. » Le Seigneur l'Éternel a envoyé son serviteur sur terre. Nous avons vu comment il a vécu, comment il a grandi, comment il a été en intimité avec le Père. Et le Seigneur l'Éternel va également envoyer son serviteur pour réaliser sa mission sur terre, la mission qu'on a vue durant le deuxième chant du serviteur. Et la réaction du serviteur, ce n'est pas de questionner, ce n'est pas de douter, comme ont pu faire plusieurs prophètes déjà. Je pense que nous savons par exemple comme Jonas, qui, lorsque Dieu lui a demandé d'aller à Ninive pour apporter le message de repentance à Ninive, il s'est enfui. Bon, on ne s'enfuit pas en face de la volonté de Dieu. Vous en connaissez les conséquences. Et également Jérémie qui se lamentait, Jérémie qui refusait quasiment de vouloir annoncer ce qui attendait le peuple d'Israël lors de la déportation à Babylone. Mais ici, encore une fois, le serviteur de l'Éternel est différent de tous les prophètes, est différent de tous les autres serviteurs qui ont pu exister. On peut le voir dans Matthieu chapitre 26, donc quasiment à la passion du Christ, dans le jardin de Gethsémané. Quel témoignage puissant de Jésus-Christ ici, quel témoignage humain également de Jésus-Christ ici. Verset 39, vous vous rappelez quand il prie dans le jardin de Gethsémané qu'il est abandonné par tous ses disciples qui lui disent de veiller, de prier avec lui parce que son heure va arriver. Ses disciples s'endorment, il est tout seul et il fait cette prière. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, la coupe de la passion qui va arriver, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. » Encore une fois, c'est quelle image forte d'un serviteur qui, malgré ses propres craintes, Jésus s'est fait homme et Jésus avait également peur. Il a décidé, il a persévéré et il est allé jusqu'au bout de la mission que Dieu lui a donnée sur terre. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. On peut passer, s'il te plaît. Nous avons vu qu'il a, le serviteur de l'Éternel ne s'est pas rebellé contre l'ordre que l'Éternel lui a donné. Mais encore plus, dans le verset 6, voyons son attitude. « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. » voyez, Jésus-Christ accepte le destin que Dieu lui a donné pour venir sur cette terre, accepte la souffrance qui va arriver, et il présente son dos à ceux qui le frappent, il présente sa joue à ceux qui arrachent sa barbe. Parenthèse, à l'époque, arracher la barbe, c'est quelque chose de très très humiliant en fait. Bon, vous voyez, nous, en tant qu'Asiatiques, enfin, pas mal de gens, bon, la barbe, on ne sait pas ce que c'est, donc arracher notre barbe, on ne peut pas comprendre. Mais à l'époque, arracher la barbe, c'était l'un des signes d'humiliation les plus grands. Frapper la joue, arracher la barbe, hein, les insultes, les crachats. En fait, ici, le prophète Ésaïe nous peint et nous dépeint un tableau qui est plein de souffrances. Et ici, on voit encore l'attitude du serviteur qui, même malgré la souffrance, malgré l'humiliation, il y est favorable, en fait. Il accepte. Il ne recule pas, mais il accepte. Il accepte ses souffrances. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît ? Et on voit, en fait, dans ce que décrit Ésaïe, l'accomplissement, encore une fois. L'accomplissement de toute la souffrance du serviteur de l'Éternel dans Matthieu et dans l'Évangile et dans la mission de Jésus-Christ sur terre. Donc Matthieu 20, à droite, vous avez Matthieu 26, 67, 68 et Matthieu 27, 30. Et à gauche, encore une fois, ce qu'on vient de lire, Ésaïe, chapitre 50 au verset 5, « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. » On le voit, ils lui donnèrent des coups de poing. « Je n'ai pas caché mon visage aux insultes. » Ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et au crachat. Il crachait sur lui, Matthieu chapitre 27. Il le frappait sur la tête. Toute la souffrance qu'Ésaïe a prophétisée 700 ans avant la venue de Christ, toute la souffrance et également toute la soumission du serviteur de l'Éternel de Jésus-Christ s'est parfaitement réalisée lors de la venue de Jésus-Christ sur terre. Quelle grâce et quelle beauté, entre guillemets, il y a dans cette souffrance. Non pas parce que ce soit beau en tant que tel, mais parce que nous pouvons voir à quel point le serviteur a été obéissant. Nous pouvons voir à quel point, malgré la souffrance, il a persévéré et il a voulu suivre la parole du Père. Et on voit, malgré toutes les épreuves, malgré toutes les souffrances qu'a subi le serviteur, il a persévéré. Il n'a pas abandonné son ministère. Il est allé jusqu'au bout de son ministère. Et nous allons voir maintenant pourquoi. Pourquoi et comment est-ce que ce serviteur a pu subir toutes ces choses? Comment est-ce qu'il a pu aller au bout de toutes ces souffrances? Tu peux passer, s'il te plaît, Denis? Au verset 7, « Mais le Seigneur de l'Éternel m'a secouru. » Donc dans un deuxième temps, une fois qu'on a vu les souffrances, une fois qu'on a vu aussi la vie du serviteur, arrive l'intervention de l'Éternel. « Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. » Au verset 7. Ici, ce passage fait directement écho à Ésaïe chapitre 48, verset 9. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît, Denis ? Donc, dans Ésaïe chapitre 49 au verset 8, donc c'était dans le deuxième chant du serviteur de l'Éternel. Au verset 8, « Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce je t'exaucerai, et au jour du salut je te secourrai. » Voilà la promesse que faisait l'Éternel à son serviteur, dès le verset 8, Ésaïe chapitre 49. Et ici, dans le troisième chant du serviteur, on voit que le Seigneur l'Éternel a répondu, que le Seigneur l'Éternel a secouru le serviteur. Et encore une fois, Dieu ne se renie pas et Dieu est toujours fidèle à sa parole. Parce que, déjà, on l'avait vu dans Ésaïe chapitre 49, versets 14 à 16, il rappelait que Dieu n'oublie pas son peuple, Dieu n'abandonne pas son peuple. De la même manière qu'une mère ne peut pas abandonner ses enfants, Dieu ne peut pas abandonner son peuple. De la même manière qu'une mère ne peut pas abandonner ses enfants, Dieu ne peut pas abandonner son serviteur. Donc ici, on a un parallèle entre le secours de l'Éternel pour le peuple de Juda et le secours de l'Éternel également pour son serviteur. Mais c'est important de comprendre que le secours n'est pas de la même nature. On se rappelle que dans le secours que propose l'Éternel à son peuple, c'est un secours de grâce. Le peuple de Juda s'est détourné de Dieu, s'est rebellé, a péché contre l'Éternel, et tout ce qui lui arrive, c'est le résultat en fait de sa rébellion et de son péché. Mais nous allons voir que le serviteur de l'Éternel, tout ce qui lui arrive, toutes ces souffrances qu'on a vues, ces crachats, ces coups, et même plus qu'on va voir après, toutes ces choses-là, elles étaient injustes. Il a subi toutes ces souffrances-là alors qu'il était innocent et juste. Et c'est ce qu'on va voir dans la partie d'après. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît ? Verset 8, « Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi ? Comparaissons ensemble, qui est mon adversaire ? » Ici, le serviteur de l'Éternel part dans un monologue où il parle à lui-même et où aussi il expose ce que l'Éternel, comment l'Éternel le juge, comment l'Éternel le considère. Si celui qui me justifie est proche, qui disputera contre moi ? On peut le voir dans les textes ensuite du Nouveau Testament. Tu peux passer, s'il te plaît, Denis. Ce verset 8 également fait écho à d'autres textes, notamment dans Jean chapitre 8, versets 45 à 47. Au verset 45, « Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui me convaincra de péché ?» Donc dans cette partie-là de Jean 8, juste avant, Jean relatait Jésus-Christ, son discours notamment sur la lumière, donc Jésus-Christ est la lumière du monde, et ici il appelle également les enfants de Dieu à revenir vers lui, la vérité, et il dit « Qui me convaincra de péché ?» Personne sur cette terre, comme est relaté dans tous les évangiles, personne sur cette terre ne peut convaincre Jésus-Christ d'avoir péché, personne ne peut dire qu'il a été coupable de quoi que ce soit, de quelque péché que ce soit. Autre slide, s'il te plaît, Denis. Et on peut le voir encore plus. Donc, tout à l'heure, dans Jean chapitre 8, on voyait que c'était Jésus-Christ qui disait « Qui me convaincra de péché ?» Matthieu chapitre 27, verset 24, Pilate, donc au moment de la crucifixion, juste avant la crucifixion de Jésus, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. » Même un homme, même Pilate, qui représente l'autorité romaine, il est devant les hommes et il dit « Cet homme est totalement juste, il n'a rien à se reprocher. Vous pouvez le condamner, mais moi, je me lave les mains. Je n'accepte pas le châtiment que vous lui soumettez. » Donc une grande différence entre les souffrances du peuple d'Israël, qui depuis l'alliance qui a été conclue entre Abraham et Dieu, on a vu déjà depuis notre série à quel point le peuple d'Israël se rebellait, à quel point le peuple d'Israël péchait contre l'Éternel, à quel point l'Éternel montrait miséricorde et montrait de la grâce aussi envers son peuple. Ici, le serviteur de l'Éternel, à la différence, on le voit encore ici, n'a pas péché. Il est totalement parfait, il est totalement juste. Et quelle injustice de subir tout ça, de subir tous ces coups, de subir tous ces crachats, de subir toute cette souffrance. Mais le serviteur de l'Éternel accepte, comme on l'a vu, le serviteur de l'Éternel persévère jusqu'au bout de sa mission sur terre, parce qu'il sait qu'il est juste, parce qu'il sait que l'Éternel le déclare juste, parce qu'il sait qu'il aura, il sera totalement juste en face de l'Éternel. Il n'a pas besoin du jugement des hommes, il n'a pas besoin, malgré le rejet de toutes les personnes toutes les autorités juives qui le rejetaient, ça ne l'a pas affecté, parce qu'il sait qu'il est juste, totalement juste, et que Dieu le reconnaît juste. C'est ce qui lui a permis d'aller jusqu'au bout de ses souffrances. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît, Denis ? Comme on l'a vu, le secours de l'Éternel est arrivé pour le serviteur de l'Éternel. Parce qu'il est juste, parce qu'il n'a pas péché, parce qu'il est sans faute, Dieu est venu le secourir. Mais ce secours nous est également possible en tant que chrétiens. Ce secours nous est donné et nous est rendu accessible à travers Jésus-Christ. Ici, on touche déjà un petit peu au quatrième champ du serviteur qui va aller jusqu'à la passion du Christ, jusqu'à la crucifixion de Jésus-Christ sur la croix. Mais c'est à travers ça, en fait, que nous allons pouvoir goûter également au secours de l'Éternel. En tant que chrétiens, quand nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes unis à Christ et nous pouvons également bénéficier du secours de l'Éternel. De la même manière que Dieu a secouru Jésus-Christ parce qu'il était sans faute, parce qu'il était sans péché, Dieu également vient nous secourir, non pas parce que nous n'avons aucune faute, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que Jésus-Christ est parfait et sans faute, et que nous bénéficions du traitement de Jésus-Christ, du traitement que Dieu donne à Jésus-Christ. Oui, chers frères et sœurs, nous pouvons nous réjouir parce que en Jésus-Christ, par notre union avec Jésus-Christ, en l'acceptant comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous pouvons aussi recevoir le secours de l'Éternel. Le même secours de l'Éternel qui permettait aux serviteurs de persévérer, d'accepter la souffrance et de réaliser la volonté du Père, nous aussi nous pouvons avoir accès à ce même secours en Jésus-Christ, par notre union avec Jésus-Christ. Et nous allons voir maintenant dans une dernière partie comment. Comment est-ce que ce secours est possible en tant que chrétien? Tu peux passer s'il te plaît? Donc nous avons vu dans une première partie la vie exemplaire du serviteur dans la souffrance. Mais même dans cette souffrance-là, il était rempli d'assurance que le Seigneur allait venir à son secours. Et maintenant, le serviteur de l'Éternel nous apporte un appel. Donc le chant du serviteur continue au verset 10 par ces paroles. « Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. » Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Nous avons vu dans les deux premières parties que le serviteur décrivait, enfin, et le prophète Ésaïe décrivait la vie du serviteur de l'Éternel, ses souffrances, également qu'il allait être secouru. À partir du verset 10, on voit que le serviteur de l'Éternel s'adresse directement au peuple de Juda. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute son serviteur. Et ici, on voit en fait une équivalence entre craindre l'Éternel et écouter la voix du serviteur. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix du serviteur. Si je crains l'Éternel, je suis appelé à écouter la voix du serviteur. C'est deux choses indissociables. Si j'écoute la voix du serviteur, alors je crains aussi l'Éternel. Ça nous montre encore une fois, on a vu avant que le serviteur était dépendant, on a vu avant que le serviteur avait besoin de Dieu pour la parole, pour accomplir son ministère, qu'il avait besoin du secours de l'Éternel également. Et ici, dans cette dernière partie, on voit également que l'Éternel a toute, enfin, le serviteur de l'Éternel a toute l'approbation de l'Éternel. Parce que craindre l'Éternel équivaut à écouter son serviteur. C'est la même chose. L'Éternel légitime, en fait, l'appel du serviteur. Légitime ce que le serviteur a à dire. L'Éternel dit, si vous me craignez, si vous voulez m'obéir, écoutez ce que mon serviteur a à dire. Et c'est également à ce moment-là que le serviteur de l'Éternel nous rappelle encore une fois son titre. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Encore une fois, le serviteur, ici, ce n'est pas un serviteur tel qu'on pourrait le connaître. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, si on parle de serviteur, on a en tête quelqu'un qui a un tablier ou qui tient un plateau et qui va servir. Vous voyez, c'est ça un petit peu l'image qu'on a moderne aujourd'hui du serviteur. Ici, à l'époque, le serviteur, ce n'est pas du tout ça. Bien sûr, le serviteur de l'Éternel va être amené à servir sur terre, servir les perdus, servir les pécheurs, servir les consolés. Mais le serviteur, à l'époque où écrit le prophète Ésaïe, un serviteur, c'est une notion beaucoup plus noble, beaucoup plus importante. Un serviteur, c'est quelqu'un qui est envoyé par le maître, qui a toute l'approbation du maître, qui a toute la confiance du maître, parce qu'il va apporter le message du maître. C'est un porte-parole, c'est un ambassadeur, c'est un représentant de la volonté du maître. Et ici, encore une fois, le prophète Ésaïe nous rappelle, à travers la bouche du serviteur, que le serviteur de l'Éternel, c'est vraiment celui qui est choisi par l'Éternel, celui en qui l'Éternel a passé toute sa confiance pour réaliser sa mission sur terre. Arrêtons-nous rapidement un moment pour voir un petit peu tout ce qu'on a parcouru, notamment dans les deux premiers chants du serviteur de l'Éternel. On a introduit un peu toute cette série sur les chants du serviteur de l'Éternel, notamment dans le premier chant, où on a vu que le serviteur de l'Éternel avait été choisi par l'Éternel. Jésus-Christ a été choisi par l'Éternel pour accomplir la mission de Dieu sur terre, pour apporter la justice aux nations. Nous avons vu dans le deuxième chant que le serviteur de l'Éternel était venu sur terre également pour accomplir la mission, pour restaurer la relation entre le peuple de Dieu et Dieu, s'il est venu accomplir la mission sur cette terre de restauration. Et dans ce troisième chant, nous avons vu que ce serviteur a vécu une vie parfaite sur terre, sans aucun péché, qu'il a accepté de souffrir injustement à notre place. Et également que, encore une fois, il est adoubé, entre guillemets, par l'Éternel. L'Éternel le reconnaît parfaitement comme son serviteur. Non pas serviteur comme nous l'entendons, mais comme son envoyé, comme son ambassadeur. Il a toute confiance au serviteur. Ce n'est pas l'appel, par exemple, du général de Gaulle, tout de Gaulle qu'il soit, mais c'est encore bien plus grand, c'est un appel encore bien plus important d'une personne parfaite, quelque chose que nous n'avons jamais vu sur terre, un homme parfait qui n'a jamais péché, qui a voulu souffrir pour nous, pour nos péchés, et qui nous appelle aujourd'hui, à partir du verset 10. Quel est cet appel ? Quiconque marche, tu peux avancer s'il te plaît, Denis. Encore. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Tel est l'appel du serviteur aujourd'hui, pour le peuple de Juda, mais également pour tous ceux qui l'écoutent encore aujourd'hui. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel, qu'il s'appuie sur son Dieu. Cet appel a plusieurs portées pour nous aujourd'hui. Aussi bien pour des gens qui entendent pour la première fois peut-être cet appel, qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, de ce serviteur de l'Éternel, de Jésus-Christ, de sa vie sur terre, de toutes les souffrances que nous avons pu voir. C'est peut-être nouveau, c'est peut-être quelque chose que nous n'avons jamais entendu, ou c'est peut-être quelque chose que nous n'avons jamais compris en profondeur. Pourquoi est-ce que toutes ces choses se sont-elles passées ? Si aujourd'hui c'est votre cas, le serviteur de l'Éternel vous appelle aujourd'hui. Si vous marchez dans l'obscurité, si vous ne connaissez pas encore Dieu, si vous ne reconnaissez pas le serviteur de l'Éternel, Jésus-Christ, comme votre Seigneur et Sauveur, le serviteur vous appelle aujourd'hui à ne plus marcher dans l'obscurité, à vous détourner de votre péché et à revenir à l'Éternel, à placer votre confiance en l'Éternel en acceptant ce qu'a fait le serviteur de l'Éternel. Et pour toutes les personnes qui, aujourd'hui, ont peut-être accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, qui ont placé notre confiance en Dieu, nous avons pu voir que le prophète Ésaïe nous décrit encore une fois et nous rappelle tout ce qu'a fait le serviteur de l'Éternel, tout ce qu'a fait Jésus-Christ sur cette terre. Ici, nous avons vu sa vie et ses souffrances, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a accepté de subir comme souffrance pour nous. Et cela devrait nous donner une joie profonde. Quelle chance nous avons d'avoir un serviteur de l'Éternel qui a fait tout ce qui a voulu subir toutes ces souffrances pour nous. Quelle chance nous avons d'avoir une personne aussi grande, comme on l'a vu aussi, qui est légitimée, approuvée par l'Éternel, et qui est venue sur cette terre en tant qu'homme pour subir toutes ces souffrances pour nous. Quelle chance nous avons, nous. C'est vrai que c'est compliqué des fois en tant que chrétien, et moi le premier. C'est peut-être un message qu'on entend tout le temps. Moi aussi, en préparant cette prédication, quelle est l'importance, en fait, de la vie de Jésus-Christ? Quelle est l'importance de ce chant et son accomplissement dans le Nouveau Testament? Quelle est l'importance pour moi au jour d'aujourd'hui dans ma vie de chrétien? Est-ce que c'est juste une vérité biblique ou est-ce que ça a un impact aussi dans ma relation avec Dieu? Et c'est important de ne pas oublier et de se remémorer tout ce que le serviteur de l'Éternel a fait, toute la souffrance qu'il a pu vivre pour se rendre compte que toutes ces choses-là étaient pour nous. Il était totalement juste, il n'avait pas à subir toutes ces souffrances, mais il les a subies pour nous, parce que nous les méritions. Et cette prise de conscience et ce rappel encore aujourd'hui devrait nous pousser encore plus à aimer Jésus, à aimer le Seigneur, parce que dans nos souffrances, il a apporté le serviteur de l'Éternel pour nous consoler, nous qui étions abattus. Et c'est vrai que dans les moments de souffrance, je pense que quand on parle de souffrance, tout le monde ici connaît ce mot, souffrance. Je pense qu'on a tous souffert à un moment donné dans notre vie, par notre péché, déjà, parce que nous sommes éloignés de Dieu. Et même en connaissant Dieu, même en acceptant de donner notre vie à notre Seigneur, nous souffrons également chaque jour dans nos situations. Chacun ici présent, je pense, a déjà connu la souffrance ou connaît même en ce moment la souffrance. Et le message du serviteur de l'Éternel aujourd'hui par rapport à cette souffrance, bien sûr, il y a cette notion de secours qu'on voudra entendre. Oui, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, je souffre dans ma condition, moi le premier, dans la semaine ou dans ma vie, quand je souffre, il n'y a qu'une seule envie, c'est de crier à l'Éternel, de dire « Seigneur, je souffre, j'ai besoin de ton secours, viens, viens à mon secours. » Et je pense qu'on a déjà tous vécu ça. Mais ici, le serviteur de l'Éternel et le prophète Ésaïe nous guident aussi vers une autre souffrance. Pas vers notre propre souffrance à nous, mais vers la souffrance de Jésus-Christ. Lorsque nous souffrons, bien souvent nous regardons à nous-mêmes, mais ici, Ésaïe nous invite aussi à regarder à Jésus-Christ. Levons les yeux de notre propre souffrance, de notre propre, des fois, orgueil, égoïsme, et où on demande à Dieu de venir et de nous secourir là où on est. Seigneur, viens dans ma situation, c'est le désespoir, je ne sais pas comment je vais faire. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, cette prière. Mais ici, le serviteur de l'Éternel nous appelle pas vraiment à faire ça. Non pas regarder à ma propre souffrance, mais lever les yeux et regarder à la souffrance de Jésus-Christ. Quand nous souffrons, rappelons-nous aussi de lever les yeux et de regarder à la souffrance de Jésus-Christ. Lui qui a souffert injustement pour mes propres péchés. Levons les yeux et regardons à ça. Admirons aussi, soyons reconnaissants de cette souffrance qu'il a vécue pour nous. Mais le Seigneur, Dieu n'est pas sourd à vos souffrances. Le Seigneur Dieu n'est pas aveugle à nos souffrances ici-bas. Le Seigneur Dieu n'est pas insensible à nos souffrances ici-bas. C'est pour cela qu'il est venu sur terre, pour souffrir. C'est à cause de mes fautes qu'il s'est fait insulter, c'est à cause de nos fautes qu'il s'est fait frapper, c'est à cause de nos fautes qu'il est allé à la croix, jusqu'à même la mort à la croix, qu'on verra la semaine prochaine. C'est à cause de nous qu'il a souffert tout cela. Et regardons encore une fois, dans ces moments difficiles de souffrance pour nous, regardons à la croix, regardons la patience et l'obéissance parfaite de Jésus-Christ. Et soyons certains aussi que Dieu nous apportera le secours parce que nous sommes unis en Christ. Comme je vous le disais, Dieu n'est pas sourd et Dieu n'est pas insensible à nos souffrances, et il le montre. Tu peux passer la slide, s'il te plaît. Dans Hébreux, au chapitre 4, verset 15. Donc ici, l'auteur des Hébreux nous dit, à partir du verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Nous n'avons pas Jésus-Christ, le serviteur de l'Éternel, qui ne peut pas compatir. Au contraire, frères et sœurs, Jésus compatit à nos souffrances, Jésus compatit à nos faiblesses. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà tout vécu. Il a vécu toutes les souffrances que nous avons pu vivre pour nous et il les a sublimées à la croix. Il sait par quoi nous passons, il sait ce que nous pouvons ressentir et il compatit. Avec cette promesse que nous avons, avec cette assurance également que nous avons de tout ce que le serviteur a vécu, approchons-nous, nous dit l'auteur aux Hébreux verset 6, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde. Frères et sœurs, comme on l'a vu dans l'introduction, le 18 juin 1940, était un jour historique pour la France. Il y a eu un homme et il y a eu un appel. Il y a eu un homme, le général de Gaulle, tout général de Gaulle qu'il était, et il y a eu un appel auquel les gens ont répondu, auquel les Français ont répondu, les Français exilés. Aujourd'hui, à travers ce troisième chant du serviteur de l'Éternel, il y a également un homme, un serviteur, bien plus grand, bien plus parfait, bien plus puissant que toute autre personne. Et cet homme qui a vécu, qui a souffert injustement pour nous, a un appel aujourd'hui. Un appel à la repentance, comme on l'a dit, pour les personnes qui ne connaissent pas, mais également un appel à la reconnaissance. Reconnaissance de ce qu'il a réalisé sur cette terre pour nous, la souffrance qu'il a endurée pour nous, et reconnaissance aussi dans le sens reconnaître Jésus-Christ, lui le serviteur, lui l'envoyé de Dieu, le reconnaître à sa juste valeur. Et lui accorder notre confiance et notre vie. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, face à cet appel du serviteur, quelle est votre réponse ? Je vous invite à passer un moment de prière. Fermez les yeux. Et qu'on puisse réfléchir à ce qu'on a entendu aujourd'hui. Ce que le Seigneur a voulu nous transmettre par sa parole, par la vie du serviteur de l'Éternel, lui qui est envoyé de Dieu, lui qui a vécu une vie parfaite, lui qui a souffert injustement, il l'a fait pour nous, pour nos péchés, pour que nous puissions accéder à la grâce de Dieu. Et il nous lance un appel, comme on l'a vu, un appel à la repentance et à la reconnaissance. Qu'on puisse passer un moment également pour répondre à cet appel et prier notre Seigneur. Placer notre confiance en lui et également le remercier, le rendre, être totalement reconnaissant pour ce qu'il a fait durant son ministère sur terre. Notre Seigneur, notre Père, nous venons encore devant toi, Seigneur, parce que nous reconnaissons que tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es l'Éternel, tu es le Maître, et tu as envoyé ton serviteur sur cette terre. Un serviteur, comme nous l'avons vu, parfait, un serviteur qui était prêt à obéir, Seigneur, à la mission que tu lui as donnée, à souffrir pour nous, pour nos péchés, pour que nous puissions être déclaré tes enfants, être déclaré juste et accéder aux mêmes bénédictions que tu accordes à ton serviteur. Merci Seigneur parce que tu nous le montres encore une fois, Seigneur, tu ne nous oublies pas, tu ne nous abandonnes pas et tu avais prévu déjà depuis l'histoire de l'humanité un moyen pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions recevoir ta parole. Merci Seigneur encore une fois pour ce rappel cet après-midi, ce rappel de la perfection et de la beauté du serviteur. Touche nos cœurs, Seigneur. Ce que nous ne pouvons pas faire intellectuellement ou par notre propre raisonnement, Seigneur, nous voulons que ta parole et ton esprit touchent nos cœurs et nous émondent, Seigneur, et nous rendent sensibles pour que nous puissions encore une fois nous émerveiller devant la chance que nous avons, devant le privilège, la grâce que nous avons d'être tes enfants à travers Jésus-Christ. Merci encore, Seigneur, pour ce moment où ta parole, encore une fois, nous a parlé. Et Seigneur, que tu continues à travailler dans nos cœurs, Seigneur, à rechercher toujours encore plus chaque jour, Seigneur, à comprendre la beauté de ce qu'a fait le serviteur de l'Éternel, de ce qu'a fait Jésus-Christ pour nous. En ton nom, je te prie. Amen.